Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Si on en parlait, où nous discutons, comme vous le savez, de sujets essentiels qui impactent notre quotidien et notre planète. Ce soir, nous allons donc nous pencher sur une problématique cruciale, la gestion des déchets. Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont produites et leur impact sur l'environnement et la santé publique est alarmant. Pour mieux donc comprendre cette situation et explorer des solutions concrètes, nous avons le plaisir d'accueillir deux militants passionnés, oui, de l'environnement, qui viennent donc de mettre sur pied une association qui regroupe des acteurs du domaine de l'environnement. Et j'ai nommé Madame Françoise Annan et Monsieur Ayman Badamassi. Ensemble, donc, nous allons donc découvrir leur motivation, leur projet, comment chacun d'entre nous peut donc jouer un rôle dans cette lutte essentielle pour notre avenir. Restez donc avec nous pour les découvrir davantage et pour une discussion enrichissante et inspirante.
L'esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,
quand il descend.
Qui déchire, la web radio qui déchire.
Et oui, nous sommes donc parés pour les presque une heure de temps à passer ensemble. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue dans Si on en parlait. Sans plus tarder, nous allons donc nous adresser à nos invités. Je le rappelle, ils sont militants de l'environnement. Nous allons donc donner la parole à la dame tout d'abord pour qu'elle puisse se présenter et ensuite monsieur donc Ayman fera pareil. Bonsoir chers invités.
Bonsoir.
Bonsoir Miss Darlis.
Vous allez bien?
Ça va bien, merci. Ça vous va.
Je vais super bien, merci. Donc vous avez le micro pour la présentation.
Alors bonsoir chers auditeurs, bonsoir Miss Darlis. Moi c'est madame Annan Françoise, africaine de l'État du Sénégal. Présentement surnommée pour diverses raisons, aussi bien professionnelles que, on va dire, fraternelles. Alors, moi, je suis militante environnement, spécialisée dans la gestion des déchets, plus particulièrement le plastique, mais aussi les autres types de déchets ménagers. En parallèle, je suis salariée, entrepreneur, voilà, je suis sur les deux casquettes. En tant que salariée, bah, j'ai le profil de business developer. C'est, voilà, de carrière, je suis business developer. Et dans l'entrepreneuriat, je suis aussi bien, on va dire, de l'entrepreneuriat social que du business pur avec le côté événementiel que je fais. Avec mes structures de rêves sans ruines et Shiny Photoboot.
Voilà. D'accord.
Donc, globalement, parler de moi, c'est ça.
D'accord. Alors, enchantée encore une fois.
Merci.
Alors, monsieur Ayman, il est habitué, en tout cas, ici, mais on va encore lui demander de se présenter.
Habitué, c'est un euphémisme. Je ne suis pas là tout le temps, mais bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être ici dans la radio à Revue Info. Et je m'appelle Ayman Badamassi, entrepreneur social, activiste climat et chef d'entreprise.
D'accord. Alors, encore une fois, bienvenue à vous. Alors, nous allons donc démarrer notre entrevue de ce soir pour parler gestion de déchets. Alors, chers invités, bon, la parole à qui veut la prendre déjà?
D'accord.
Que veut-on, ou carrément, que veut-on dire par gestion de déchets?
Alors, pour ma part, je pense que la gestion des déchets, c'est vraiment les actions, aussi bien gouvernementales que citoyennes, qui sont mis en place, qui sont vraiment galvanisés pour traiter nos déchets ménagers ou industriels ou voilà. C'est vraiment toutes les stratégies mises en place pour que le déchet soit géré, soit valorisé ou détruit. Voilà, on va dire ça comme ça.
Alors, monsieur Ayman.
Oui, je pense que Françoise a tout dit. Tout ce que je vais ajouter, c'est que l'objectif de la gestion, c'est de... c'est surtout la santé de la population déjà. C'est la santé de la population et l'environnement également. Du coup, quand les gouvernements ou bien les citoyens mettent en place des actions pour gérer les déchets, c'est surtout pour protéger soit l'environnement et la santé humaine également.
Alors, comment est-ce que vous devez définir, si on peut le dire ainsi, l'état actuel de cette gestion en Afrique en général et surtout dans vos pays respectifs? Si je prends... Peut-être le Togo, on commence par le Togo et on va au Sénégal.
Exactement.
Ok. En Afrique, la gestion est différente d'un pays à un autre. Mais dans le cas particulier du Togo, il y a des actions qui sont entreprises par le gouvernement et également les entités, c'est-à-dire les acteurs de l'écosystème qui, chacun dans son domaine, essaie de faire des efforts pour améliorer cette gestion-là au Togo.
Alors, madame?
Je dirais la même chose pour le cas du Sénégal. Enfin, comme l'a si bien dit mon ami Ayman, chaque pays a sa particularité. Au Sénégal, il y a vraiment une avancée qui est constatée dans la gestion des déchets, même si on sait qu'il reste encore des choses à faire. Mais vraiment, voilà, les efforts sont en train d'être faits, aussi bien du côté du gouvernement que des citoyens, peut-être un peu moins du côté des citoyens, mais le gouvernement fait sa part. Il reste encore des choses à faire, mais voilà, c'est en cours.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir les types de déchets qu'on a ou les types de déchets qui sont les plus problématiques actuellement ou aujourd'hui?
Ok. Alors, pour ma part, c'est les déchets plastiques qui sont les plus problématiques parce que ce sont des déchets qui mettent beaucoup plus de temps pour se détériorer et aussi avec d'autres impacts négatifs sur l'environnement. Mais il y a aussi les déchets je dirais informatique, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de, nous sommes à l'ère de la technologie. Tout le monde utilise des téléphones portables, des ordinateurs, tout ça. Donc, ce sont des déchets qui commencent pas à prendre également de l'ampleur.
Exactement, parce que comme le dit les déchets informatiques, en fait, on en parle peu, mais actuellement, nous sommes tous connectés. L'univers est connecté, le monde est connecté. Mais quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour contrer cela, aussi bien pour les déchets que pour les, autant pour moi, le plastique que pour les D3E, les déchets, on va dire, électroniques. C'est des sujets sur lesquels vraiment on doit se pencher, parce que ça prend de l'ampleur et comme l'a dit Ayman, le plastique prend des années-lumière à se détériorer, donc qu'est-ce qu'on en fait ?
D'accord, alors comment est-ce que la gestion des déchets impacte-t-elle l'environnement local ? Madame ?
Alors, on va dire sur le plan local, une mauvaise, je vais partir sur la mauvaise gestion par exemple. Une mauvaise gestion des déchets crée de l'insalubrité, de mauvaises conditions de vie pour les communautés. Donc pour moi, il est vraiment urgent que les citoyens prennent conscience de cela pour que eux, à leur niveau, qu'ils puissent faire mener les actions qu'il faut, mais aussi que le gouvernement puisse les accompagner, qu'il puisse y avoir plus d'initiatives dans la gestion locale des déchets. Et ainsi, au niveau local, commencer et se répandre, pourquoi pas, au niveau de l'Afrique en tout entière, en fait.
Monsieur Ayman ?
Oui, je pense que Françoise a dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la population, en fait, en tout cas les citoyens, pour certaines personnes, ne savent pas que aujourd'hui, quand nous parlons par exemple de gestion des déchets, que c'est une chose qui est très importante. Je donne un petit exemple. Françoise a parlé de l'insalubrité, les dépotoirs sauvages qui se créent, et aussi la pollution des eaux. Parce qu'aujourd'hui, quand nous jetons un sachet plastique par exemple dans la nature, on ne se rend pas compte, mais généralement ce sont des déchets qui finissent dans les océans, dans les cours d'eau, tout ça, et ça pollue l'environnement, ça pollue également ça a des conséquences sur non seulement la santé publique, mais également sur l'économie du pays, parce que le pays dépend de la pêche, dépend du tourisme, et qui a envie de visiter peut-être un pays qui est sale?
Personne.
Donc voilà, donc ça a des conséquences sur beaucoup de secteurs du pays, pas que sur l'environnement et la santé humaine également.
C'est vrai, on a brossé tout à l'heure donc ce que c'est que la gestion des déchets, mais d'où est-ce que ça vient ? Quelle en est la cause ? Est-ce que vous avez une idée de ça ?
Oui, je pense que l'une des premières causes, c'est que les populations ne sont pas assez sensibilisées sur le sujet. Les gens ne savent pas que jeter un déchet, c'est pas bon. Enfin, jeter un déchet n'importe où, c'est pas bon. Et c'est tellement amplifié de sorte qu'aujourd'hui, tu peux voir une personne jeter un déchet, même s'il y a une poubelle à 5 mètres de cette personne. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils posent comme acte. Et c'est dû au fait qu'il n'y a pas une éducation environnementale. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'éducation, des cours d'éducation environnementale qui ne sont pas intégrés dans le programme scolaire est une des causes, par exemple. Alors moi, ça fait déjà depuis 10 ans que je n'ai jamais jeté un déchet par terre, justement parce que tout petit déjà, on me disait ne jette pas n'importe où. Tu vois, la population n'est pas éduquée sur le sujet. Mais à côté de ça, je pense qu'il n'y a pas aussi assez de stratégies. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas assez de stratégies, de politiques qui sont mises en place pour justement accompagner cette sensibilisation-là. Parce que quand on parle de politique, on parle de stratégie, on parle aussi de moyens. Mais ça devrait être une priorité pour l'État.
Effectivement. C'est dans ce même sillage au Sénégal. Enfin, le constat qui est fait, c'est que dans la conscience des communautés, des populations, le déchet est fait pour être jeté dehors. C'est-à-dire, on nettoie bien sa maison, tout est propre, mais tout le reste est mis dehors, en fait. Voilà. C'est-à-dire que dehors devient le dépotoir. Et un peu partout, on retrouve des déchets. Enfin, ce qui rejoint ce que dit Ayman, il n'y a pas une sensibilisation, autant pour moi, forte, pour que les populations prennent conscience que, au fait, aussi bien tu nettoies à l'intérieur, tu dois prendre soin de l'extérieur. Et voilà, c'est un effet de chaîne, en fait.
Alors, dans votre quotidien, on commence peut-être par Ayman. On sait qu'il est promoteur du concept Robe à l'Auto. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place des initiatives pour la gestion des déchets dans votre communauté, par exemple?
Ok, alors nous, ça fait plusieurs années que nous avons lancé Robe à l'Auto. Robe à l'Auto, qui veut dire, en langue mina au Togo, le ramasseur de plastique. Et c'est justement une initiative qui se veut de promouvoir le recyclage des déchets plastiques à travers des solutions technologiques. Donc ce que nous faisons concrètement, c'est d'équiper les écoles de poubelles connectées. Ce sont des poubelles qui sont dotées de capteurs et d'applications qui nous permettent, à part de collecter les déchets plastiques, collecter aussi les données sur son utilisation. Et parallèlement, ces déchets-là que nous collectons sont transformés en des sacs solaires qui sont baptisés Robanou, qui permettent aux enfants dans les villages sans électricité de pouvoir étudier. D'accord. À côté de ça, nous mettons en place également dans les écoles des clubs environnement pour justement pallier l'absence des cours d'éducation environnementale dans les basses classes.
Alors, Madame Françoise, qu'en est-il de votre côté au Sénégal ?
Alors, pour me concernant pour l'association Green Brand, en fait, vraiment, je dirais que l'association est en phase de démarrage parce que c'est né d'un constat. L'année dernière, vraiment, un peu dans le même sillage que mon ami Ayman, qu'il n'y a pas d'éducation, on va dire, citoyenne et écologique, on va dire, sur les sujets environnementaux, et que bah, la population n'a pas trop cette prise de conscience ou ne s'approprie pas vraiment le sujet. Et pourtant, on en parle, on en parle dans les médias et des actions qui sont mises en place par le gouvernement, mais la population ne s'est pas encore appropriée ce sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'elle puisse se l'approprier. Et comme on dit, l'enfant, les jeunes sont les meilleurs vecteurs, en plus des femmes, les meilleurs vecteurs et relais d'information. Donc nous, la cible, c'est vraiment de sensibiliser au niveau des écoles, pareil, au niveau des écoles, au niveau des jeunes. Et comme je disais, je fais dans l'événementiel, donc comment trouver une stratégie pour intéresser les jeunes à l'environnement. Donc créer vraiment des événements où il y aura beaucoup de sensibilisation, beaucoup de mise en lumière sur ces sujets-là. Et en espérant que, voilà, que, comme je dis, que la mayonnaise puisse prendre et qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives au niveau des jeunes sur ces sujets environnementaux-là.
D'accord. Alors, peut-être dans la deuxième partie, nous allons plus nous accentuer sur les différentes associations.
Effectivement.
La vôtre et celle des Maouns que vous avez créé ensemble. Mm-hmm. Comme ça, les auditeurs vont savoir qu'il y a des choses qui se font en background, même si, voilà, quoi, on se dit que non, c'est le gouvernement qui doit se lever de là où il est pour venir nous dire de ne pas jeter les ordures par terre. Alors, peut-être, je vais en hors contexte, peut-être pas, mais je suis intéressée de savoir, Ayman a parlé de son enfance, on m'a appris à ne pas jeter les ordures par terre. De votre côté, comment a été cette éducation-là?
Alors, cette éducation au sein de, on va dire, du cercle familial, c'est pareil. Mm-hmm. C'est vraiment, ma mère est très maniaque, donc il n'y a pas moyen de mettre des saletés partout. Mm-hmm. C'est vraiment dans le même sillage, jeter à la poubelle, vraiment faire cet effort-là de jeter. Ce qui a manqué à cette éducation, c'est comment jeter et quoi jeter. Pourquoi je dis ça, c'est le tri, on va dire. Parce que c'est un nouveau concept, moi je dirais, qui prend de l'ampleur en Afrique. Tout ce qui est tri et valorisation de déchets, sectoriser les déchets, ça n'a pas été fait. Je l'ai appris de moi-même et de par mes expériences professionnelles et professionnelles et sociétales. Mm-hmm. Au niveau de mon enfance aussi et de mon parcours de jeunesse, j'ai eu à faire des mouvements associatifs, CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillant et le guide. Et on nous apprenait, mais vraiment, à être propre. Je vais dire ça tout simplement, à être propre. Donc, c'est des automatismes tellement simples qu'on inculque aux enfants et qui grandissent avec. Donc là, moi, aujourd'hui, il y a plein de choses que dans ma vie de femme, je ne ferais pas, parce que j'ai eu cette éducation associative aussi bien que familiale. Voilà, donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'éducation, l'accompagnement, la sensibilisation, ce qui est très important.
Alors, outre les initiatives que vous embrassez, voilà, si je peux le dire ainsi, quelles sont ces autres-là qui se passent peut-être dans le pays, en dehors de vos activités à vous? Est-ce qu'il y a des initiatives qui encouragent tout ça dans votre pays?
Oui, récemment, j'ai participé à une opération de nettoyage, on va dire, généralisée au niveau national. Parce que notre nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, a pris ses fonctions au mois d'avril, si je ne dis pas n'importe quoi. Et au mois de juin, il y a eu le 1er juin, plus précisément, il y a eu une opération de nettoyage général des quartiers. Donc les communes s'organisaient sur la base du volontariat pour nettoyer. Et moi, j'ai participé à une... Enfin, au fait, moi, je suis dans une commune un peu, on va dire, phare, entre guillemets. Et on a une place qu'on appelle la place des Sicap. C'est un grand rond-point, vraiment un échangeur de... C'est une place clé, en tout cas, mais qui était vraiment insalubre. Avec des commerces informels, il y avait vraiment... tout et n'importe quoi. Et ce jour-là, on a décidé de tout nettoyer. Ça a été remis à neuf. Et la commune a un projet de vraiment faire un jardin public avec des toilettes publiques, ce qui est une initiative vraiment louable. Donc voilà, il y a ce genre d'initiatives qui sont mises en place, ou même des jeunes dans un quartier qui décident de nettoyer une zone, de l'embellir. Voilà. Les gens ont ce désir-là et cet engouement-là de faire. Donc je pense que mise ensemble avec les initiatives du gouvernement, ça peut donner quelque chose de bien.
Mmh. Alors, Ayman, de votre côté, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On a donc les clubs qui sont dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de ça?
Ok, alors nous, la condition sine qua non, avant d'installer le robe à l'auto dans un établissement scolaire, c'est justement qu'il y ait un club environnement. Mmh. Parce que nous, notre volonté, c'est de pallier aussi à l'absence des cours d'éducation environnementale dans les basses classes. Et ces clubs-là, justement, sont éduqués sur les notions de recyclage, de tri. Généralement, ce sont des personnes qui, à la fin de leur cursus préscolaire et scolaire, ont quand même des connaissances sur tout ce qui est marché carbone, reboisement. On essaie quand même de leur apprendre ces genres de choses-là. Et nous avons aussi, en collaboration avec le ministère des droits de l'homme et de la formation civique, développé un manuel de citoyenneté. Et j'espère que ce manuel-là sera divulgué et accessible à tous les jeunes afin qu'ils puissent prendre connaissance de son contenu qui est assez intéressant.
Mmh. Alors, par rapport à l'implémentation des programmes que chacun a dans sa communauté, si je peux le dire ainsi, quels sont ces genres de défis que vous rencontrez? On reprend avec M. Ayman.
Ok, nous, en termes de défis, nous avons le fait que certaines personnes ne veulent pas quitter leur statu quo. Ça voudrait dire que nous apportons une idée nouvelle, mais c'est souvent difficile de mettre cette idée-là en pratique. Par exemple, avec les poubelles connectées, il faudrait que chaque journée, un enseignant scanne le code QR pour nous partager les données au cas où l'établissement ne dispose pas de connexion Internet. Mmh. Donc, c'est pas souvent des choses qui sont faciles, mais avec le temps, les gens commencent par s'habituer, parce que c'est prouvé scientifiquement que ce que tu fais pendant 66 jours devient une habitude, tu vois. Mais au début, c'est toujours assez compliqué, donc oui. Je vais parler du statu quo. Après, il y a aussi le fait que les initiatives environnementales ne sont pas toujours soutenues. Mm-hmm. C'est pas toujours évident de, par exemple, aller faire un prêt à la banque pour développer une solution parce que la banque n'a pas l'habitude, enfin, ils ne comprennent pas en fait notre modèle économique, tout ça. Donc, ils n'ont pas souvent confiance à déployer des fonds ou à mettre des fonds sur des initiatives environnementales, tout ça. Mm-hmm. Mais ce sont encore des défis. Il y a aussi les entreprises qui, généralement, doivent investir dans leur responsabilité sociale, mais qui s'en foutent. Bon, en guillemets, parce que la politique gouvernementale n'accompagne pas trop. Donc voilà.
Madame Françoise.
Mais c'est vraiment, je pense qu'on retrouve les mêmes problèmes, si je puis dire, un peu partout en Afrique en fait. En plus de ce qu'Ayman a dit précisément par rapport à Roma Lotto, en fait, moi ce que je constate au Sénégal, c'est que c'est déjà l'adhésion des communautés, tout simplement. Mmh. L'adhésion des communautés, parce que dans la mentalité collective, c'est pas une priorité de gérer des déchets, en fait. C'est pas une priorité de trier, de séparer le plastique des déchets ménagers, du carton, etc. Ce n'est vraiment pas une priorité. Donc, moi, déjà, à ce stade-là où j'en suis, le défi majeur, c'est l'adhésion. L'adhésion et l'acceptation des communautés, vraiment, qui puissent comprendre la portée et la visée de ce qu'on leur dit, en tout cas de notre militantisme là, pour pouvoir nous accompagner. Parce que moi, ce que je dis, c'est que si la personne n'est pas intéressée, elle n'accordera pas de crédit. Donc vraiment là, mon défi premier, c'est vraiment que les gens puissent y trouver un intérêt pour vraiment accompagner les actions qui vont suivre derrière. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des jeunes conscients au Sénégal. Et je loue ceux-là qui sont conscients des défis environnementaux et qui travaillent déjà. Donc, on va dire que j'ai déjà des ressources qui pourront m'aider dans ce travail-là. Mais au sein des communautés elles-mêmes, il y a un réel défi. Et aussi, il y a aussi un autre défi, c'est qu'il y a un manque de connaissances pour certains que je qualifierais peut-être de... Je ne vais pas dire un manque d'éducation, mais l'alphabétisation est limitée. Donc, dans ce sens-là, il faut trouver une stratégie pour leur faire comprendre ce qu'on dit, mais de façon assez simple, en fait. Donc voilà. En fait, il y a tous ces paramètres. C'est, moi, je dirais que c'est de la gestion interpersonnelle. Mm-hmm. Je suis en face de gens qui sont différents de moi, je suis différent d'eux. Comment je vais faire pour qu'ils puissent adhérer à ce que je leur apporte, sachant que ce que je leur apporte, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Mm-hmm. Aussi bien pour leur santé, pour l'environnement de tout, enfin, qu'on partage ensemble, que voilà, pour leur bien-être au quotidien.
Retour donc en studio. Merci pour votre écoute, amis internautes et auditeurs de la web radio Aurélien Info. Bienvenue encore à ceux-là qui viennent de prendre le train en marche. Vous êtes dans Si on en parlait. Le sujet du jour concerne la gestion des déchets dans son ensemble. Et bientôt, nous allons donc aborder le sujet des associations promues par nos deux invités militants environnement, Madame Françoise Annan et Monsieur Ayman Badamassi. Alors, chers invités, nous nous tournons encore une fois vers vous. La prochaine question, elle est celle-ci. Selon vous, quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans l'amélioration de la gestion des déchets ?
Pour ma part, je pense que les entreprises sont des acteurs clés dans l'amélioration de cette gestion des déchets, parce qu'ils sont aussi bien producteurs que, moi je les appelle pollueurs. On est tous pollueurs en fait, aussi bien citoyens qu'entreprises, on est des pollueurs. Donc en tant que pollueurs, je parle des entreprises, en tant que pollueurs, ils doivent mettre en place des stratégies RSE, vraiment pour, on va dire, balancer la balance. Ça fait redondant, mais voilà, pour équilibrer la balance et réduire leur empreinte carbone, en fait. Parce que l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'équilibrer l'empreinte carbone et voilà, d'être au beau fixe. Je pense qu'ils doivent vraiment accompagner, à défaut de eux, avoir des stratégies qui vraiment visent à mettre en place des actions pour l'environnement, qui puisse accompagner en tout cas les entrepreneurs sociaux dans ces démarches-là. Pour la petite histoire, moi, ce que je vise, c'est vraiment que les entreprises, enfin, en tout cas des actions que je veux mener au Sénégal, c'est vraiment que je ne le fasse pas toute seule, en fait, que les entreprises le fassent avec moi et qu'ils engagent la responsabilité sociétale environnementale pour vraiment contribuer à la mesure du possible aux actions qui seront mises sur le terrain pour le bien de tous, parce qu'on est tous pollueurs, donc on doit se serrer les coudes en tant que pollueurs pour améliorer la situation. On va dire ça comme ça.
D'accord. Monsieur Ayman.
Oui, pour compléter, ce sont des acteurs, enfin je parle des entreprises, ce sont des acteurs qui ont cette facilité-là de toucher un public assez grand, directement d'un coup, notamment leurs clients, leurs partenaires, tout ça. Donc ce serait quand même assez biaisé de ne pas s'intéresser à la chose, d'autant plus qu'ils ont, comme Françoise l'a dit, une RSE, une politique RSE à adopter.
Alors, la prochaine question, comment le changement climatique influence-t-il vos stratégies, en tout cas, si je peux dire, personnelles en matière de déchets?
Alors, les changements climatiques, quand même, nous permettent de prendre conscience de la chose. Je donne un petit exemple. Nous, la dernière fois, je parle de l'année scolaire passée. On devait faire une remise de poubelle à une période où il ne devait pas pleuvoir du tout. Mais il a plu. Mais c'est pour dire, en fait, que ce sont quand même les effets dus au changement climatique qui influencent quand même ces genres de situations. Donc ça nous permet quand même de prendre conscience de la chose et de mieux nous impliquer.
C'est ça. Madame ?
Effectivement. Enfin, déjà, la stratégie qu'on a adoptée face aux déchets, c'est qu'il faut qu'elle soit en corrélation avec ce qu'on vit partout dans le monde, aux différents types de changements. Bah, pas plus tard que ce 9 octobre, il y a eu un ouragan en Floride. C'est pas anodin, en fait. Peut-être quelqu'un dans un autre coin, dans le Groenland ou je ne sais pas où, se dira « ça ne me concerne pas, donc je n'ai rien à faire ». Mais au fait, l'action de tout un chacun, je parlerai de citoyenneté mondiale, l'action de tout un chacun dans le monde compte en fait. Donc dans cet état d'esprit-là, on va dire les stratégies qui seront mises en place seront aussi bien locales que à portée mondiale, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment une ouverture. En fait, pour moi, la gestion des déchets, c'est même plus un sujet de continent, de pays ou de ville, de zone. Non, ça concerne tout le monde, en fait, tout le monde. Parce que, regardez, au Sénégal, il devait pleuvoir. Il pleut plus beaucoup. Bah, c'est dû à quoi? Au changement climatique. On va pas dire que c'est le petit paysan du coin qui n'a pas fait son job. Non, c'est quelqu'un dans le monde qui a fait une action qui fait qu'aujourd'hui qu'on en soit là. Donc c'est vraiment une stratégie, on va dire, à l'échelle mondiale. Une réflexion à l'échelle mondiale. Voilà.
Alors pour clôturer cette partie qu'on a consacrée à la gestion des déchets, dites-nous quelles sont les idées reçues sur ce concept-là que vous aimeriez démystifier à votre niveau.
Alors, moi, à mon niveau, par exemple, généralement, on pense que ce sont les sachets noirs qui sont mauvais et que ce sont les sachets de couleur qui sont bons.
Okay.
Non, ça, ça n'a rien à voir. Que le sachet soit noir, rouge, jaune, je sais pas quoi.
Il reste un sachet.
Il reste un sachet. Et quand il n'est pas biodégradable, il n'est pas biodégradable. C'est pas ça. Une question de couleur.
D'accord, je suis sûre qu'il y en a qui vont ce soir se rendre compte qu'ils étaient dans du faux. Hein. Là maintenant, on vous a clarifié. Alors, Madame Françoise, à votre niveau.
Bon, moi, je vais pointer le doigt sur l'aspect pécunier, en fait, du déchet. Dans la conscience des gens, et bah, ça a été peut-être mon cas avant que bah, je puisse prendre conscience de... En tout cas, que je puisse en être là où je suis aujourd'hui. Le déchet, c'est un déchet. Il n'y a rien de bon dedans. Au fait, le déchet, c'est du mauvais. Alors que le déchet, en fait, c'est une matière première. C'est une matière première. C'est de l'or entre les mains de celui qui sait quoi en faire et comment bien le faire, en fait. Donc, dans la conscience des gens, c'est que le déchet, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon. Mais en fait, non. Vous avez entre les mains quelque chose qui peut participer à l'économie d'un pays, qui peut être valorisable dans l'économie circulaire. En fait, on parle énormément de l'économie circulaire avec le reuse, le recyclage, la valorisation des déchets. Mais c'est ce que vous avez entre les mains, aussi bien chez vous que voilà, dans les commerces, dans les industries. Donc, pensez grand, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai? Voilà, moi je dirais c'est vraiment ça que les gens doivent, cette idée-là qu'ils doivent démystifier, de l'idée selon laquelle le déchet c'est... Il n'y a rien de bon dedans, en fait.
Mmh. Alors, auditeurs, auditrices, nous venons donc de conclure avec la première partie, la première grande partie de cette émission qu'on a consacrée donc au sujet, la gestion des déchets. Nous avons eu donc les avis individuels donc de nos deux invités. Je rappelle Madame Anane Françoise et Monsieur Ayman Gwadamassi, sont tous deux militants environnement. Maintenant, place à une autre information ou carrément un autre sujet qui nous tient à cœur. Nous parlons maintenant des associations, voilà, qui luttent pour la protection de l'environnement. Alors, madame, dans ses interventions, a mentionné avoir donc mis sur pied ou sur place une association du nom de Green Brands. On aimerait savoir ce que c'est concrètement.
Alors, Green Brands, c'est une association qui est née d'un constat selon lequel il manque énormément une conscience citoyenne, en fait. Il manque une conscience citoyenne dans tout ce qui est gestion des déchets, tout ce qui est santé publique, salubrité, salubrité, on va dire, de l'espace commun. Et de là, l'idée est venue de faire participer tous les pollueurs, les différents acteurs pollueurs dont je fais partie, voilà, pour qu'on puisse ensemble travailler à conscientiser la population, conscientiser les communautés, mettre en place des actions dans le sillage de rendre plus salubres nos espaces communs, mmh. et vraiment valoriser les déchets qu'on a entre les mains. Mmh. Comment les traiter, comment les valoriser, par quel acteur. Quand je dis acteur, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui sont des parties prenantes, en fait. Aussi bien le gouvernement que le monsieur lambda X qui a son petit sachet d'eau qui veut jeter sur la chaussée. Voilà, on est tous partie prenante autant pour moi et tous acteurs. Donc vraiment, le Green Brand, c'est d'engager les marques, d'où le nom de Green Brand, les marques vertes. C'est de faire en sorte que ces entreprises, ces différentes marques, aussi bien personnelles qu'au niveau étatique, puissent prendre part à ce projet-là de façon financière ou de façon... personnel, en tout cas, c'est une une idée de collaboration participative pour que ensemble nous puissions sensibiliser les écoles, les doter du matériel nécessaire pour pouvoir déjà trier toutes choses, la première des choses, trier les déchets, être en collaboration avec des acteurs qui sont déjà dans la transformation de ces déchets pour pouvoir les transformer. Et in fine, ça c'est mon souhait le plus ultime, c'est de voir sortir de terre, en fait, une unité de transformation. Moi, je dis au Sénégal, mais aussi bien en Afrique, dans nos différents pays, en fait, dans nos différents États, des unités de transformation des déchets pour que vraiment les actions qui sont mises en place au niveau local puissent vraiment trouver un aboutissement, qu'on puisse arriver au bout de la chaîne et dire, OK, le petit élève de l'école telle a recyclé ou le petit ménage de la telle commune a recyclé ses déchets, ça a été transformé, ça a été collecté, trié et valorisé. Et voilà ce qui en sort, en fait. C'est vraiment, on va dire, le Saint Graal pour moi.
D'accord. Alors, le Green Brand, voilà, la marque verte.
C'est ça.
Bon, on peut dire que le nom déjà est vraiment impactant, en tout cas. À votre niveau, déjà, vous parlez de l'association qui est au démarrage, mais sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est fait en amont. Exactement. Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent déjà?
C'est ce que je disais tantôt, c'est le fait d'embarquer des gens. Parce qu'il faut vraiment travailler à ce que les gens puissent y trouver un intérêt. C'est lent, c'est vraiment lent, parce que quand on a de bonnes initiatives, on a envie que ça prenne vite. Des fois, c'est lent, donc ça demande beaucoup de patience. J'ai des gens qui m'accompagnent, mais pas comme je veux. Donc, je ne décourage pas, je ne décolère pas du tout. Enfin, je reste sur le même cap et je me dis que ça prendra.
D'accord.
Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça marchera.
D'accord. Alors, nous revenons donc à Monsieur Ayman Gwadamassi. Je l'ai dit tantôt en introduction qu'il est promoteur du concept Robe à Loto. C'est vrai, ça a démarré depuis un moment. On sait ce que c'est, mais on en a parlé même de votre côté à vous. Où est-ce que vous en êtes?
Ok, alors actuellement avec Robe à Loto, nous avons développé, enfin, je pense que pour, c'est vrai que les auditeurs ne connaissent pas tous les actions que nous faisons, mais récemment, nous avons mis en place une application mobile que nous appelons Robe Assimée, c'est-à-dire le marché du plastique.
Oui.
Et l'objectif de cette l'objectif de cette application-là, c'est de mettre en relation deux acteurs. Le premier acteur, ce sont les vendeurs de déchets plastiques, notamment les entreprises, les écoles, les communes. Le second acteur, ce sont les entreprises de recyclage qui, elles, l'autre, par contre, ont envie d'acheter de la matière première, parce que l'idée est partie du constat que ces entreprises-là ont du mal à facilement se trouver, enfin, ont du mal à trouver de la matière première de qualité. Donc voilà, donc cette application-là sera bientôt accessible au grand public et nous sommes sûrs qu'à travers cette initiative, le recyclage sera beaucoup plus promu.
Alors, auditeurs, auditrices, ils ne sont pas à deux dans ce studio pour rien. Ils sont là aussi pour parler d'une troisième association. Et là, c'est une association commune que les deux, en tout cas, ils sont dans cette association. Nous allons donc leur demander déjà comment ça s'est fait, votre rencontre, et d'où est née donc l'idée de cette association qui est dénommée Éco-Transformation Afrique. Qui veut prendre la parole, madame?
Je me lance.
D'accord.
Alors, Éco-Transformation Afrique, c'est déjà une petite précision, c'est une association dont Ayman et moi sommes membres, mais il y a d'autres membres.
D'accord.
Je vous explique. L'histoire de Éco-Transformation Afrique est née lors du programme Yali, le OCRL Dakar. Pour le coup, on fait un petit coucou au CRL pour cette initiative. En fait, c'est une initiative de l'USAID, financée par l'USAID. Et sur le côté francophone, on va dire la formation se passe sur Dakar, au CRL de Dakar. Donc, on s'est rencontrés là-bas dans ce cadre avec d'autres membres qui viennent de 25 pays de l'Afrique francophone. Et on s'est rendu compte qu'on avait quasiment les mêmes problématiques, les mêmes sujets concernant le déchet, et que nous sommes des acteurs qui évoluons dans des, on va dire, dans des secteurs différents, mais qui sont tous axés sur l'écologie. Parce que dans ETA, Éco-Transformation Afrique, on a des membres qui sont dans l'agroécologie, d'autres qui sont dans la construction durable. Donc voilà, on a vraiment plusieurs profils dessus. Et partie de ce constat et du fait qu'on était vraiment des acteurs qui avaient les mêmes problématiques, les mêmes sujets, on s'est dit, ok, l'idée du panafricanisme que l'on prône vraiment de l'Afrique en termes d'État, on s'est dit qu'on va se mettre ensemble, créer une association au sein de laquelle, au fait, on militerait pour l'environnement, mais dans différents coins de l'Afrique, en fait. Vraiment, de mettre en place des actions, des stratégies, de travailler ensemble pour que nos voix puissent porter et résonner en Afrique. Voilà, c'est de là qu'est parti ce beau projet.
D'accord. Alors, Monsieur Iman, vous êtes peut-être le seul Togolais, ou je ne sais pas. Y a-t-il d'autres Togolais qui sont dans cette association?
Pour le moment, je suis le seul Togolais, mais justement, l'idée, c'est de rassembler tout le monde, tous ces acteurs-là de l'écosystème qui font des choses. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de création, mais nous voudrions beaucoup plus promouvoir la co-création. On veut faire des choses ensemble. Et d'ailleurs, le fait qu'on fasse des choses assez isolées, on sait tous que ça n'a pas... C'est vrai que ça a des effets, mais je suis sûr qu'ensemble, on fera encore beaucoup plus d'exploits.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques nationalités qui font partie déjà de cette association?
Alors, on a le Bénin, un petit coucou à mon collègue Hilarion. On a le Bénin, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Togo, le Sénégal, la Guinée, voilà, la République de Guinée, la Côte d'Ivoire, entre autres. Donc voilà, pour l'instant, on a la Guinée-Bissau aussi, pour ne pas oublier mon autre collègue. On a vraiment différents types d'origine Afrique francophone. Et on vise vraiment à ce que ça ait plus de portée. Et pour le petit highlight que je vais faire pour mon collègue qui est là, qui va bientôt se rendre pour un programme qui est un peu différent du Yali CRL Dakar, mais qui est dans le même sillage, c'est le Yali Expo, exposition, qui se passera en Afrique du Sud. Ayman sera notre porte-voix, représentera ETA. Il part pour son projet personnel, mais vu qu'il est membre d'ETA, on fera d'une pierre deux coups. Et on espère qu'il pourra nous avoir, on va dire, d'autres membres un peu plus de l'Afrique anglophone. Et là, on aura vraiment un bon cocktail pour espérer que nos actions puissent prendre tous ensemble, enfin, de partout dans l'Afrique, en fait.
D'accord, mais parlons donc de joindre d'autres personnes, peut-être anglophones, à votre cause. Mm-hmm. Ne pensez-vous pas qu'il y aura un problème de langue ?
Pas
la
du
barrière ?
Tout. Pas du tout, parce que on a l'avantage en tant que francophone d'essayer de parler un peu anglais. Et pour moi, il n'y a pas de barrière. Aussi bien que les barrières terrestres ne sont pas des barrières réellement, mm-hmm. la barrière linguistique n'en est pas une. Parce que qui veut, je vais dire qui veut peu, qui fait des efforts peu. Mm-hmm. Si vraiment on est amené à collaborer avec des anglophones, l'anglais n'est pas une barrière pour les membres de l'État actuel. Mm-hmm. Donc, je pense que ce ne sera pas une difficulté majeure.
Mmh. Alors, comment déjà envisagez-vous travailler ensemble, déjà que vous êtes un peu dispatché un peu partout dans l'Afrique ?
Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de toujours se réunir parce que tout le monde est dans son pays, chacun leader dans son activité. Mmh. Mais nous trouvons toujours des temps pour faire des réunions, pour planifier des actions. Mais les premières actions que nous faisons est de mettre en lumière les initiatives des membres de l'État parce que chacun fait des choses assez extraordinaires. Donc ce serait décliné de ne pas mettre en lumière toutes ces actions-là. Et nous planifions également des campagnes de sensibilisation dans différents pays.
D'accord, déjà une création d'entreprise ou une création d'association, ça appelle à beaucoup de choses, à beaucoup de fonds. On peut revenir sur les défis auxquels vous faites face.
Les défis, c'est d'abord le fait que nous sommes dans beaucoup de pays, enfin des pays différents. Déjà, même si on était ensemble dans un même pays, ça serait compliqué.
La même chose,
ça
oui.
serait compliqué. Mmh. Étant donné qu'on est dans plusieurs pays, c'est toujours compliqué parce que c'est pas facile de se voir. D'ailleurs, je n'espérais même pas voir Françoise actuellement assise à côté de moi. Mmh. Mais c'est d'abord le premier défi, le fait qu'on n'arrive pas toujours à se voir tout le temps. Mais comme Françoise l'a dit, les frontières ne sont pas en fait une barrière. Le second défi, c'est le défi des moyens financiers parce qu'on parle d'action, mais à côté des actions, il faudrait des moyens. Mm-hmm. Donc, l'argent est toujours un défi, mais ce n'est pas un problème parce que quand on veut réellement faire un truc, l'argent est au second plan en fait. Mm-hmm. Parce qu'on le fait après, on se demande même comment est-ce qu'on en est arrivé.
Exactement.
Là. Donc, voilà.
D'accord, alors vous n'êtes qu'à la base à la mise en place de la dite association. Donc, quels sont déjà est-ce que vous avez des types de projets que vous visez sur le long terme ? À promouvoir ou à mettre en place.
Après, sur le long terme, comme l'a dit Ayman, je pense que au fur et à mesure que les actions se mettront en place on verra l'impact que ces actions-là ont eu et augmenter le niveau, on va dire, de militantisme, de participation et d'action environnementale au sein de nos différents pays et communautés. Mais pour l'heure, vraiment, c'est vraiment de montrer ce qui se fait. De montrer ce que se fait un peu partout, autant pour moi, en Afrique francophone et on espère aussi anglophone, et de mettre en lumière les différents acteurs, vraiment ce qu'ils font, la richesse qu'on a en Afrique en termes d'engagement citoyen environnemental, en fait. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, vous entendrez parler d'État.
D'accord.
Positivement.
Il n'y a pas de souci. Donc, beaucoup de courage, c'est ce que l'on peut vous souhaiter. Alors, c'est vrai, on va revenir sur le nom déjà, Éco-Transformation Afrique. Pourquoi pas un autre nom ? Pourquoi forcément ces trois mots ?
Le choix du nom, je ne vous cache pas que ça a été sujet à réflexion. Je pense qu'on est tombé d'accord sur le fait que éco-transformation rejoignait vraiment l'essence même, le cœur de ce que nous, on veut faire. Parce que dans chacun de nos domaines, on cherche à transformer quelque chose. On cherche à être dans dans des actions transformationnelles durables, en fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, OK, en fait, pourquoi ne pas prendre des mots simples qui vont du premier contact, parler aux gens, qu'ils puissent comprendre ce qu'on dit. Mm-hmm. Tout ce qui est écologie, éco, ça parle à la communauté, ça parle aux populations. La transformation, tout le monde voit ce que ça veut dire. Mm-hmm. Et l'Afrique, vraiment, c'est la portée qu'on veut donner à ce projet, en fait. Mm-hmm. Vraiment viser toute l'Afrique. Mm-hmm.
Oh, be lifted.
Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Alors, chers invités, nous commençons donc par Monsieur Ayman Gbadamassi. Quel message souhaitez-vous transmettre à d'autres personnes qui envisagent de se lancer dans des initiatives similaires ?
Ok, alors le message que j'aimerais passer, c'est de collaborer. Collaborer, parce que c'est vrai que nos petites actions sont importantes, mais travailler avec des gens qui ont la même vision, des gens qui ont des, même si c'est des idées différentes, mais qui ont quand même la même vision, que vous permet d'amplifier les actions et d'avoir une portée beaucoup plus grande.
Alors madame ?
Alors moi, ce que je dirais aux personnes qui veulent vraiment se lancer dans ce type de, on va dire, d'entreprise là, c'est d'oser. D'oser vraiment y aller, en fait. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque, il est omniprésent, mais il faut vraiment oser y aller et oublier ces différentes barrières, ces différents blocages, tout ce qui peut vraiment poser un problème. Imaginons si nous, pour État, on s'était dit « Ok, on est dans différents pays, on ne se verra jamais. » Et ce serait un frein, en fait, à la mise en place de cette association-là. Mais en réalité, on a osé le faire, on a osé relever ce défi des frontières, des barrières de frontières. Et il y a d'autres défis qui nous attendent, mais on sait qu'on est prêt, armé, à les relever ensemble. Donc vraiment collaborer, travailler ensemble. Mm-hmm. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Merci. Ça. Donc, votre mot de la fin, on garde. Donc, on laisse madame monopoliser la parole et puis on la passe à Ayman.
Alors, moi, je tenais vraiment déjà à vous remercier, Miss Darlik, de nous avoir permis d'en parler. Mm-hmm. Exactement. Je remercie aussi mon frère Ayman qui est au cœur de cette initiative-là. Mm-hmm. Je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent avec nous dans ETA, mm-hmm. qui vraiment s'engagent pour que les choses se mettent en place. Ce que j'aurais à dire de plus, c'est que donnez-nous du crédit. Je parle vraiment aux personnes, je parle en règle générale à toutes les personnes qu'on aura à solliciter dans l'avenir. Donnez-nous du crédit, faites-nous confiance, faites confiance aux jeunes, à leurs ambitions, à leurs idées des fois folles, mais qui sont vraiment ambitieuses. Mmh. Et l'Afrique s'en portera que meilleure.
Alors, Monsieur Ayman.
Alors, je remercie... je vais faire un petit coucou à Papa Diallo. Je ne sais pas si il nous écoute. Mais c'est justement un monsieur qu'on a connu à Dakar, mmh. qui était un peu comme notre mentor, qui nous a coachés, qui nous a permis d'en être là, en fait, aujourd'hui. Mmh. Et je profite pour lui faire un petit coucou. Et également à tous les membres du CRL, tous les acteurs, qu'ils soient dans État ou pas. En tout cas, tous ces jeunes-là qui étaient au Sénégal pour le Yali, pour la session 24. Et voilà. L'autre chose, c'est de dire à tout le monde, je pense qu'on est tous concernés par cette action, mm-hmm. par cette problématique de l'urgence climatique. Donc chacun de son côté peut faire une action. Mais ce qui est important, c'est de toujours que nos actions soient centralisées de sorte que l'impact soit beaucoup plus durable.
Nous voilà donc arrivés à la fin de notre émission de ce soir, si on en parlait. Merci à nos invités, Madame Françoise Annan, militante environnement, ainsi que Monsieur Ayman Gbadamassi, promoteur du concept Robaloto, donc d'être passés nous parler de leur engagement, de leur précieuse contribution sur la gestion des déchets, la création bien sûr de leur association. Merci encore une fois à vous d'avoir partagé votre vision et initiative à travers Éco-Transformation Afrique. Il est clair donc ensemble que la gestion des déchets n'est pas seulement une question environnementale mais un enjeu social et économique donc qui nécessite l'implication de chacun en adoptant donc des comportements responsables et bien sûr en soutenant des initiatives locales. Nous pouvons tous contribuer à un avenir plus durable, alors donc n'oublions pas que chaque petit geste compte. Merci chers amis internautes, auditeurs de nous avoir suivis et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement pour un monde meilleur. Très bonne suite de soirée à vous et bonsoir chez vous.